Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, l'émission d'information locale de Canal B. Et au menu aujourd'hui, l'info du jour, un chercheur rennais spécialiste des polluants éternels qui sont au cœur d'un projet de loi, deux reportages. D'abord, retour sur une résidence d'artiste au collège des Hautes-Ourmes avec Electronica. Puis on lance la programmation estivale de la ferme de Quincé à Rennes. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, et puis deux recommandations autour de l'expérience personnelle pour nourrir le documentaire pour l'une, et l'autre avec la culture, sujet d'une table ronde. Bienvenue dans l'arène. Chaque jour, l'émission d'information locale, elle débute avec l'info du jour, une que je choisis parmi d'autres dans l'actualité locale. Et ce jeudi 4 avril, c'est une proposition de loi qui est présentée à l'Assemblée nationale dans le but d'interdire dès 2025 la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché d'une partie des produits qui contiennent des PFAS, PFAS, plus simplement appelés polluants éternels. Les textiles seraient concernés par l'interdiction d'ici 2030. Sur France 3 Bretagne et le Télégramme, on découvre l'éclairage de Khalil Anna. Il est professeur à l'École nationale supérieure de chimie de Rennes et travaille sur la quantification, la caractérisation et l'élimination de ces polluants dans les systèmes naturels. Un chercheur qui juge le projet de loi évoqué comme pragmatique. Toxique et persistant, c'est quelques 12 000 composés chimiques utilisés par les industriels depuis les années 40. Ils sont partout autour de nous, par exemple dans les emballages alimentaires, certains ustensiles de cuisine, avec la poêle anti-adhésive qui est un peu un symbole là, de ces polluants éternels. Mais il y a aussi la mousse anti-incendie, les produits électroniques, certains produits ménagers et le textile qui en comporte également. Comme ces polluants sont très résistants à la chaleur, au froid et à l'eau, résultat, bien, on les retrouve partout dans notre environnement sur des dizaines voire des centaines d'années. C'est ce que montre une étude publiée par les écologistes mercredi qui sont à l'initiative du projet de loi présenté ce jeudi. Ils sont partout, y compris dans l'eau de consommation courante, dans l'air, le sol et jusque dans le corps humain. Le souci, c'est que ces PFAS sont des perturbateurs endocriniens, également des substances potentiellement cancérogènes. Ainsi, en novembre dernier, deux substances parmi les plus communes ont été classées cancérogènes pour les humains par le Centre international de recherche sur le cancer. L'une est interdite en Europe depuis 2019. Et précision, pour l'instant, on n'a pas une liste exhaustive des effets sur la santé, ou en tout cas sur les organismes aquatiques. Ça, ce sont les mots de Khalil Anna, chimiste rennais, à retrouver donc dans la presse locale ce jeudi. On ajoute enfin que la proposition de loi comprend d'autres mesures, l'obligation de contrôler les eaux de consommation courante et la construction d'une trajectoire de dépollution des eaux et des sols contaminés sur un principe de pollueur-payeur. Et au moment où je vous parle, donc les poêles anti-adhésives qui comprennent des polluants éternels, eh bien, ont simplement, purement et simplement, été exclus du projet de loi en cours. Allez, après cette info du jour, on passe à un premier reportage. Et c'est un reportage réalisé à plusieurs mains par Corentin et moi-même lors de la restitution, mardi 2 avril, au Conservatoire du Blône, d'une résidence menée au Collège des Hautes-Ourmes à Rennes. Sur l'année scolaire 2023-2024, le musicien et chercheur de son rennais Sacha Gatineau a mené une opération de grand détournement avec une classe de 4e. À partir de déchets chinés chez un ferrailleur, un drôle d'instrumentarium a vu le jour et aboutit à la création d'un morceau de musique expérimentale. La matière sonore que vous allez entendre sera ensuite utilisée pour créer une performance chorégraphiée. Ça, ce sera à voir en juin au Triangle. Allez, reportage.
Du coup, je suis Perrine Carambrin et je fais partie du pôle communication d'Electronica.
Comment on présente Electronica aux auditeurs qui ne connaissent pas cette association ?
Alors, Electronica, on est une association basée à Rennes. On œuvre dans le champ des cultures numériques et des arts hybrides. Et on est surtout connu pour le festival Maintenant qu'on organise chaque année au mois d'octobre. Et on a plein d'autres activités tout au long de l'année, comme l'accompagnement artistique, la diffusion d'œuvres. On fait également des ateliers et des formations autour du lien entre art et nouvelles technologies. Et donc, c'est dans ce cadre aussi qu'on fait une résidence aujourd'hui avec Sacha Gatineau au Collège des Hautes-Aurons.
Vous êtes combien dans l'association salariés bénévoles ?
On est une dizaine de salariés à l'année. Et puis après, les bénévoles, c'est surtout axé sur le festival et à peu près une centaine de bénévoles pour le festival.
C'est quoi le point de départ à cette résidence donc, de Sacha Gatineau ?
Le point de départ de cette résidence, c'est une rencontre autour de la création de la combinatoire à combine, qui est une performance audiovisuelle qu'on a présentée l'année dernière sur le festival. Et donc un peu dans la continuité de cet accompagnement artistique, on a proposé à Sacha de rencontrer les élèves du Collège des Hautes-Ourmes et donc de faire une création aussi avec ses élèves, qui est un peu un ensemble de percussions.
Là, on se retrouve au moment d'une première restitution en public sur la partie musique, mais je crois qu'il va y avoir une seconde étape au mois de juin, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc les sons des instruments qui sont joués sont enregistrés et donc seront joués avec du light wall system. Donc c'est une interface où quand on passe sa main dans la lumière, ça déclenche le son. Et donc c'est pour un peu lier danse et les sonorités qui sont enregistrées avec les instruments objets.
Et ce sera à voir où et quand ça ?
Ce sera à voir au Triangle en juin. On n'a pas encore la date de la restitution.
Ok. Peut-être expliquer un petit peu le rôle d'Electronica sur une résidence telle que celle-ci. C'est un accompagnement tout au long de la collaboration, on va le dire comme ça.
Oui, tout à fait. On fait se rencontrer artistes et l'établissement scolaire. Et puis, on est là en soutien pour faire que la résidence se passe bien.
Est-ce que les établissements scolaires sont réceptifs à la démarche d'amener des collégiens vers un univers sonore qui leur est peut-être pas familier, quoi ?
Eh bien, c'est une très bonne question. Je sais qu'avec le Collège des Hautes-Aumes, on a déjà travaillé l'année dernière avec Benjamin Le Baron, qui était en résidence aussi sur à peu près le même format et donc qui a donné à voir une création. C'était plus de composition de musique électronique en MAO. Okay. Cette fois-ci. Donc j'ai l'impression qu'en tout cas, là, il y a une bonne réception en tout cas des projets qu'on peut proposer avec ce collège.
Donc rappelez-vous bien de vos positions, de votre orientation, position, emplacement des objets, vos baguettes, tout, etc. Parce que ça va être un peu le... C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous, hein, vous avez compris.
Oui.
Et que donc l'idée c'est pas de perdre trop de temps à chaque fois entre les différentes parties. Donc voilà. Tout le monde est prêt ?
Je suis Sacha Gatineau et je suis donc musicien, compositeur depuis 11 ans. Et voilà, et donc il m'arrive parfois d'intervenir dans des situations pédagogiques. Mais c'est pas ma spécialité non plus. Hein. Voilà, j'ai travaillé beaucoup pour des musées, du spectacle vivant, des défilés de mode ou des centres d'art. Voilà. Et puis de temps en temps, c'est intéressant de se confronter effectivement à des jeunes générations et puis voir à des gens qui sont justement, je dirais même pas amateurs, parce qu'amateurs ça voudrait dire qu'ils sont déjà dans une pratique, mais qui sont complètement, je dirais, vierges de toute pratique. Et bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec en partant un petit peu, je dirais presque de zéro, hein, puisque c'est un petit peu le cas, puisque les quatrièmes deux avec qui on a travaillé, donc ils ne sont pas en CHAM ni en CHAD, c'est une quatrième, on va dire, classique. Et puis la plupart des jeunes adolescents, je pense tous, n'ont jamais fait de musique. Je pense qu'ils ne seraient pas privés de me le dire si moi je fais du piano. Bon, personne ne m'a dit ça, donc voilà. Donc c'était une toute première pour eux. Dans un premier temps, il était question de travailler sur l'électroacoustique, parce que moi c'est un peu mon travail, l'électroacoustique live. Et il s'est avéré que autant faire de l'électronique complètement ou alors que de l'acoustique, ça va, mais alors... En gros, les deux, c'est double travail. C'était très complexe, une logistique beaucoup trop lourde. Et donc, on est revenu à quelque chose de presque traditionnel, de jouer de l'acoustique. Voilà, si ce n'est qu'il y a quand même cette teneur de recyclage et de réemploi. Donc là, l'idée, c'était de faire avec très peu. Et là, je m'étais dit, on va faire avec les moyens. Alors à l'école, au Zoom, ils ont un petit peu de choses, mais ce n'est pas tout à fait ce que je cherchais. Et donc, j'ai été chez des ferrailleurs, notamment parce que c'est là où on trouve beaucoup de métal et que le métal s'est beaucoup employé pour faire des cymbales, des gongs, des bols chantons, voilà, toutes sortes d'objets qui sonnent assez bien. Et donc, chez ces ferrailleurs, j'ai passé un peu de temps, j'arrivais, c'est un peu comme des déchetteries, hein, sauf que spécialisées métal. Et donc, on y trouve plein de petites merveilles qui, une fois nettoyées, brossées, lavées, une fois bien bichonnées, sonnent magnifiquement bien. Pour peu qu'on en prenne soin et qu'on les travaille avec les bonnes baguettes, les bonnes maillotches. Alors pareil, j'avais ramené des tonnes de baguettes parce que effectivement, selon avec quoi on tape, ça sonne pas du tout de la même manière. Ça peut être très moche comme très joli, très délicat. Ça fait ressortir des harmoniques ou des résonances qui sont plutôt bonnes ou moins bonnes. En tout cas, il y a tout un travail de recherche là-dessus. Et donc, voilà, ça a été un petit peu tout ce travail qui a été fait avec eux.
Sur quelle période ?
Alors, sur une période, il y a eu 9, je crois, interventions d'une heure pour chaque groupe. Donc, ça fait 9 heures, on va dire, à peu près. Voilà, en sachant que les premières heures, ça a été prise en main, découverte, un peu de touche. Tout le monde devait découvrir un petit peu tous ces objets. Qui sont donc, alors pour donner un peu des exemples, hein, parce que c'est vrai que c'est les objets du quotidien, mais c'est quoi ? Alors par exemple, il y a une série d'anciens plateaux de balance anciennes en laiton, voilà, qui servaient de plateaux de balance en fait. Hein, les gens les mettent à la poubelle des fois, etc. Alors que c'est du laiton, et le laiton, c'est pas très loin du bronze. Et ça sonne très très bien. Il y a un grand fût, un grand bidon qui fait des basses. Il y a une grande plaque qui fait comme un gong.
Il y avait des pièces en bois aussi.
Alors il y a des pièces en bois un petit peu. Alors ça c'est un peu, je dirais pas de la triche, mais c'est pas vraiment des instruments, mais presque, c'est des cloches, c'est d'anciennes cloches de vaches indiennes. Et ensuite il y a des ressorts de voitures. Il y a des il y a un plateau de service marocain. Alors tout ça, beaucoup de choses, voilà, ont été trouvées chez les ferrailleurs. Donc on a été jetés en fait un peu, hein. Donc on achète au poids, au kilo quoi. Alors évidemment, dès que c'est du bronze ou du laiton, c'est un peu plus cher au kilo, mais bon, c'est pas le prix des instruments. Et donc avec tout ça, on avait un gros tas et il a fallu enlever un peu tout ce qui sonnait pas bien ensemble et garder tout ce qui était à peu près consonant, tout ce qui faisait un peu, qui fonctionnait en orchestre, parce que l'idée c'est que chacun a un ou deux objets, instruments, et qu'effectivement, il faut que ça puisse se répondre et fonctionner ensemble.
Et alors, comment a été composée ensuite la création à partir de cet ensemble qui ressemble presque à un gamelan, je trouve.
Oui, tout à fait. Disons qu'une fois prise en main un petit peu, je dirais, chacun a choisi un objet, un instrument sur lequel il devait se concentrer. Et à partir de là, on a commencé à travailler des petits phrasés, donc à faire une première boucle en 8 ans. Voilà, et puis on a commencé à dire oh, c'est sympa, mais bon, ça tourne, c'est un peu court. Donc on va faire deux phrases. Et puis, oui, mais toi c'est bien, mais tu vas peut-être faire une fois sur deux, donc ça va faire quatre phrases. Et donc on a commencé à grandir un petit peu les phrasés. Chacun devait évidemment mémoriser ses phrasés. Et puis après, c'était assez simple, je dirais. C'est-à-dire qu'on faisait des phrases en 8 ans. Donc toi tu fais 5, 7 et puis la fois d'après tu fais 4 et c'est tout. Et tu reprends après 5, 7, 4 la fois d'après, 5, 7, etc. Et puis ensuite c'est bien, mais ça c'était tous ensemble. Et puis après il a fallu, on s'est dit qu'il fallait faire des petits groupes. Très vite je leur ai expliqué que moi je leur faisais un peu le métronome, mais que j'allais pouvoir leur indiquer avec certains sons pour que ça fasse comme des codes. Et donc on a fait 3 groupes. Ils sont 10, donc ça fait à peu près 3, à peu près. Et chacun ayant un petit peu un code. Et donc moi, quand ils entendent mon appel, ils savent que c'est à eux de jouer ou de s'arrêter. Voilà. Et donc ça permet de combiner, de faire des sortes de combinaisons. Et donc à partir de là, se construit une sorte de mouvement cyclique un petit peu. On a essayé après de construire un petit peu un final et tout. Bon, c'est rarement tant le résultat qui compte que tout ce qui mène au résultat. Hein. Ce qui est important, on sait bien dans un cadre pédagogique, c'est pas voilà, ah, ça va être super comme bon. C'est de voir qu'effectivement que beaucoup étaient partis de rien, puis qui se sont appropriés complètement. la chose, qu'ils ont pris à cœur de bien faire, de travailler aussi la gestuelle, parce qu'on a évidemment travaillé le geste, la position du corps, etc., le fait de s'écouter, d'écouter les autres, etc. Donc c'est, en fait, c'est plein de choses, c'est un travail collectif. Hein.
Le défi, ça paraît surtout d'être capable de mémoriser et puis d'apprivoiser un peu un sens rythmique, non ?
C'est ça, bah oui, ouais, complètement. Alors, il y en a qui l'ont naturellement, on va dire, un peu, et d'autres pas du tout. Donc on fait avec, et puis c'est comme ça, puis si on sent que c'est un peu à côté, bah c'est pas grave, ça fait partie du jeu, hein, de toute façon.
Et sur les sonorités vers lesquelles vous les avez amenés, est-ce qu'ils pouvaient, je sais pas, être désemparés un peu par rapport à leur propre écoute musicale ?
Pas tant que ça, alors bon, j'imagine qu'ils ont pas forcément naturellement une culture de... ils doivent pas connaître le gamelan. Alors je pense que M. Cronier, leur professeur de musique, a dû leur faire entendre quand même pas mal de choses en préparation un petit peu à ma venue. Des choses peut-être traditionnelles, des choses qui viennent du bout du monde, des orchestres de percussion. Et donc, non, ils ont vite compris l'enjeu rythmique, l'équilibre un petit peu. Il y a des basses, il y a des médiums, il y a des sons aigus, qu'on joue plus rapidement les aigus parce que ça marche mieux. D'autres qui sont très longs, donc on les joue pas souvent parce qu'il faut les laisser résonner, etc. Donc il y a aussi une compréhension aussi des sons, et comment les faire vivre, comment les... Voilà.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Quand même. Ah, c'est pas évident, parce que je vous donne la vitesse, mais je crois qu'il y en a qui accélèrent un peu trop, ils sont mal, vous voyez.
Non, merci.
Donc, n'allez pas plus vite non plus.
Bonjour, je m'appelle Abdulaziz Faina, j'ai 13 ans. Je suis une élève du collège des Hautes. On va jouer avec des instruments.
Devant un public, est-ce que c'est un premier concert?
Ouais,
pour vous?
Oui, pour moi, oui, c'est un premier concert devant un public avec des instruments pas originaux.
À quoi il ressemble l'instrument dont vous jouez? Est-ce qu'il a un nom et à quoi il ressemble?
Il ressemble à un gong et je joue deux instruments. Une qui ressemble à un gong et l'autre, c'est une percussion. Je tape avec une baguette et ça fait des sons un peu aigus.
Ok. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'apprendre le morceau que vous allez jouer?
Non, c'était pas difficile du tout.
Est-ce que vous avez déjà une expérience musicale? Vous avez déjà joué d'un instrument avant ça ou c'était une découverte?
Non, c'était une découverte, mais j'aime bien la musique.
Alors je peux peut-être vous demander ce que vous écoutez comme musique?
Bah, j'écoute la K-pop, BTS, Stray Kids, Blackpink, aespa.
Mais alors moi quand je vous ai écouté, je trouvais que vous aviez vachement le sens du rythme. Donc bah, c'était facile pour vous en fait?
Oui, c'était facile.
Est-ce que ça peut vous donner envie de continuer à peut-être apprendre à jouer d'un instrument?
Oui.
Ce serait quoi l'instrument que vous choisiriez si vous vous y mettiez?
Alors, je sais pas, mais n'importe laquelle.
Plutôt percussion?
Ouais, percussion.
Il y a eu combien de répétitions, vous, que vous avez suivies?
5, 6, non, 7.
Ça s'est passé comment avec cet artiste-là?
C'était bien, j'aime bien. C'était trop agréable.
Difficile ou pas?
Non, c'était pas difficile, justement. J'aimais bien parce que c'était pas difficile.
Et est-ce que vous appréhendez de jouer devant un public?
Non, je sais pas, j'ai pas peur. Peut-être c'est des gens que je connais, et des gens que je connais pas, bah, du coup, j'ai pas de stress. Parce que je connais bien, je sais bien jouer, voilà.
On se reconcentre?
Oui.
It's all chance to get things. And in the evening when you give up and you pour a glass of wine, the answer was near. You hold your hand out and watch it disappear. A dream is all I have. It's all
les Lemon Twigs avec le morceau A Dream Is All I Know. C'était une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur ici à Canal B. Un morceau extrait d'un album à paraître début mai. Son titre A Dream Is All We Know. Presque la même chose que le titre que vous venez d'entendre. Ce sera le cinquième disque pour ce duo new-yorkais fondé par deux frères, les frères D'Addario. Vous écoutez La Reine, l'émission d'information locale de Canal B. Une émission à écouter sur le 94.0 mais aussi en ligne sur canalb.fr où vous pouvez retrouver les podcasts de ces émissions s'il vous arrivait de les manquer en direct. On continue l'émission d'Info du jour avec un second reportage. Et direction la ferme de Quincé, dans le quartier Borgard à Rennes. Le joyeux collectif 35 volts s'apprête en effet à lancer sa quatrième saison ce week-end. Et du vendredi 5 avril au 5 octobre, le lieu il sera ouvert comme d'habitude du jeudi au samedi, avec sur place un lieu de production maraîchère, des marchés de producteurs, un lieu festif et des concerts, mais aussi un espace cantine et un terrain de jeu pour les enfants. L'équipe est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, on m'a confié de le rappeler à l'antenne. Et le programme notamment du week-end d'ouverture des 5 et 6 avril, il est à retrouver dans le détail sur le site quincé.bzh ainsi que sur leurs réseaux sociaux.
Alors là du coup on se situe dans la cour principale de la ferme, donc au cœur du jardin qui fait un peu plus d'un demi-hectare. Et du coup notre jardin c'est ce qui s'appelle la quincette. Pourquoi la quincette? Parce que quand on a ouvert la ferme de Quincé, c'était la grande mode du mot guinguette. Mais en vérité, on n'est pas une guinguette. Hein, les guinguettes sont au bord de l'eau. Donc on a construit un bar extérieur qui est situé juste face à nous. Et puis du coup, c'est là où se passent toutes les commandes de boissons et tout ça, les repas.
C'est là où on mange, voilà. On boit les coups.
Et puis là, on a également toutes les animations du jeudi, donc les animations jeux type karaoké, blind test, bingo. Et les soirées folk se passent aussi dans ce cœur de cour.
Moi je m'appelle Marine, je suis coordinatrice plutôt de la vie associative sur la ferme de Quincé. Donc je m'occupe de coordonner tous les bénévoles et je viens en appui au pôle de la ferme.
On commence par rappeler un peu l'historique du lieu. Quelle était la dynamique au moment du lancement et puis à quoi avait ressemblé la première saison?
Donc en fait, le collectif 35 volts s'est formé pour répondre à un appel à projet qui avait été lancé par la ville de Rennes et Territoire pour l'occupation pérenne de la ferme de Quincé, et avec un objectif de développer dans cette ferme donc de 4 hectares au cœur du quartier Beauregard des activités agricoles, culturelles et sociales. Donc on est arrivé au 1er avril 2021 en ayant remporté l'appel à projet. Et donc là, aujourd'hui, c'est notre quatrième saison culturelle ouverte aux Rennaises et aux Rennais.
Et comment se connaissaient les gens qui se sont retrouvés dans ce collectif?
Alors, une partie des membres du collectif se connaissaient depuis l'enfance. D'autres se sont rencontrés à partir des études et au lancement de la vie professionnelle, on va dire. Il y a plein de corps de métiers différents dans le collectif 35 volts, mais la passion qui unissait les membres à l'origine, c'était les musiques électroniques et puis en fait aussi les festivals qu'ils avaient pu organiser, enfin des événements qu'ils avaient pu organiser ou être bénévoles sur plusieurs festivals.
En 3 années de vie, aujourd'hui, combien de personnes dans le collectif? Est-ce qu'il y a des salariés? J'imagine des bénévoles. Comment est-ce que tout ça fonctionne?
Alors aujourd'hui, on est une grosse dizaine, quinzaine de membres. On a commencé en fait le projet, on était 15. Alors moi, c'est Valentin Fontaine, je suis membre du collectif 35 Volts, chargé de communication et de programmation ici. Depuis, il y a eu pas mal de chamboulements, de changements, des départs, des arrivées, mais on reste toujours aux alentours de 15. On a aujourd'hui donc deux maraîchers qui sont nos salariés, et un mi-temps qui est donc Marine à la coordination du projet. Plus après, deux emplois saisonniers qui sont sur la cuisine et sur le bar. Et sinon, c'est entièrement du bénévolat. Donc aujourd'hui, on a évidemment encore une grande, grande force de bénévolat. On est vraiment à 90% du projet, je dirais même, de force vive humaine, qui est du bénévolat. Donc voilà, merci à nos bénévoles.
Et donc la cour, elle est entourée de deux bâtiments.
Oui. Alors, il y a une longère. Donc la longère, elle sert pour les activités internes de l'association. Donc elle n'est pas ouverte au public. Donc à l'intérieur de cette longère, il y a l'atelier de réparation. Donc, qui nous a servi à fabriquer tout ce qu'on voit dans le jardin et puis qui sert à la maintenance. Il y a également le studio de musique et le studio de sérigraphie du coup de Valentin, puisque du coup il fait toutes les affiches de la ferme de Quincé dans son atelier. Et puis il y a le bureau, le salon bénévole et la cuisine professionnelle qui se situe dans cette longère. Et face à nous là, on a la grange, donc ça c'est une belle grange en bauge, donc en terre et paille. Et cette grange, donc ça fait depuis 2021 qu'on attend qu'elle soit rénovée, donc avec l'aide de la ville de Rennes, pour pouvoir avoir un espace polyvalent ouvert au public toute l'année. Donc ça veut dire que la ferme de Quincé, on espère grandement que d'ici fin 2024, cette ferme puisse être ouverte au public tout au long de l'année sans discontinu, avec des activités un peu moindres pendant l'hiver, mais en tout cas des activités pour le public.
Là, on se retrouve pour annoncer le lancement à la belle saison de toute une programmation qui va se dérouler ici à la ferme de Quincé. Est-ce que c'est un lieu qui vit quand même donc toute l'année, notamment avec les deux personnes qui sont sur la production de légumes ?
Oui, la ferme de Quincé, donc elle est ouverte au public d'avril à octobre, mais de octobre à avril, du coup, l'équipe salariée continue en fait le travail de fond. Donc les maraîchers continuent à cultiver les légumes et à les vendre via différents canaux, donc au restaurant à qui on vend les légumes. On est aussi sur le marché des Lys. Et puis sur la partie plus vie associative, du coup, il y a énormément d'administratifs à faire, il y a des recherches de subventions qu'on n'a pas forcément. Et puis également, continuer à préserver les liens avec les différents partenaires, les institutions et les associations du territoire.
Sur les restaurants, il y a donc des restaurants externes qui...
Oui, on fournit alors une vingtaine de restaurants. Alors bien sûr, on ne les fournit pas en totalité, mais on a une vingtaine de restaurants qui sont dans le carnet de commandes. Donc vous avez les restaurants comme Graille, Chou Piquant, le Mirlet Tantouille, le TNB aussi, le restaurant du TNB, ça arrive également, le Saint-Germain, la Cavale, tout ça.
Qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans ? Est-ce que le projet a évolué ? Les équipes ont un peu bougé, mais est-ce que le cœur d'activité reste le même ? Il y a peut-être eu des ajustements à certains endroits ?
Bah déjà, ce qui est arrivé depuis, c'est la création du pôle de maraîchage, puisqu'on a commencé en fait l'aventure en faisant juste cette partie de guinguette en fait, qui nous a permis de financer le pôle agricole. Donc depuis 3 ans, le champ a bien évolué, les postes de maraîchage aussi, puisqu'on a créé ces deux postes. Et voilà, sinon sur la partie guinguette, beaucoup de modifications sur le lieu. En soi, sur les usages, on fait beaucoup appel à des collectifs. Maintenant, beaucoup de collectifs rennais viennent avec nous participer à la programmation. On laisse une grande place à ça. Par exemple, on a FTTT, donc From Town to Town, pardon, qui vient plutôt sur une programmation rock, Empty Pool. On a le Queerarium qui s'occupe des spectacles drag. On a aussi Texture, La Reine des Voyous, plutôt sur le pôle électronique, avec Comme Ça également. Enfin voilà, toute une liste de... Legal Shot aussi, qui vient animer une soirée dub. Toute une liste de collectifs dont on est très fiers d'avoir à la ferme de Quincé.
On sait que les guinguettes, elles ont cette particularité d'être un peu dépendantes dans leur santé de la météo qu'on connaît durant l'été. Vous avez peut-être pas eu 3 années faciles, parce qu'il y en a eu une plutôt de sécheresse et une très humide l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ça peut mettre en danger un projet ?
Oui, l'équilibre financier de l'association reste très fragile. Hein. Depuis le départ, on est toujours très très près des sous, surtout qu'on fonctionne quasiment en trésorerie, en fonds propres depuis le départ, même si on a énormément d'appui en ingénierie de la part de la ville de Rennes. Puis il y a aussi une mise à disposition qui a été quasiment gracieuse les premières années. Maintenant, une ouverture seulement 6 mois dans l'année nous permet pas de développer plus d'activités. Alors qu'on a pour projet, par exemple, de développer beaucoup plus d'actions sociales, mais en l'absence d'un lieu couvert qui est aux normes pour recevoir du public, on ne peut pas aller plus loin pour l'instant.
Dans le jardin, on retrouve pas mal d'arbres fruitiers, des pommiers, des pêchers, des cerisiers, des noisetiers. Donc ça a toujours été un grand verger, en fait, dans la ferme de Quincé et aux alentours dans le parc. Donc on a préservé ces arbres, donc du coup pendant la belle saison, les gens qui sont dans le jardin peuvent cueillir les fruits qui sont dans les arbres. Et puis nous on s'en sert aussi, on les revalorise quand on a le temps du coup et on les vend aussi sur le marché. Le jardin a plusieurs paysages différents on va dire, donc on a une petite partie vraiment jardin planté qui est entretenue cette année par un de nos services civiques. En général ça c'est le gros terrain de jeu des enfants quand ils viennent. On a une grande plaine enherbée de terrain de palais. Et puis après ça, si on va un peu plus loin dans le jardin, en tout cas, en vérité, quand vous rentrez dans la ferme de Quincé, c'est par là qu'on commence normalement, on appelle le sous-bois. Et le sous-bois abrite du coup donc les toilettes sèches. Et puis également tout un grand dance floor, on va dire, végétal. Donc y a la scène extérieure qu'on a construite l'année dernière, et c'est là où se passent tous les concerts. Face à nous, on distingue un peu l'arrière de grands quartiers, donc Quincé c'est aussi ça, c'est une terre de paradoxes et de contrastes. Hein. On est une ferme urbaine, donc en fait on voit vraiment qu'on est
à 2 pas de la ville.
Voilà, on entend un peu les oiseaux chanter, et en fait si on fait quelques pas, ben, on est sur un grand boulevard, d'autres pas on est vers la rocade, et de l'autre côté on a tout le quartier de Beauregard qui s'étend face à nous.
On se retrouve donc pour annoncer le lancement de la 4e saison estivale à la ferme de Quincé qui débute le 5 avril. On commence par le week-end d'ouverture, donc 2 journées avec, j'ai noté, 7 groupes qui vont se produire face au public.
C'est ça, ouais. Peut-être 7 groupes, ouais. Donc le vendredi, on est sur une programmation live, disons plutôt rock, avec un groupe d'Orléans qui s'appelle Griffe, un duo qui se définit comme Pink Punk, donc qui va bien envoyer. On a un groupe de 4 Nantais qui s'appelle Moleskine aussi, qui sont plus sur du post-punk. On a un DJ Dupont qui viendra habiller l'ouverture de cette soirée du vendredi. Et le samedi, on est plutôt sur une programmation électronique avec 3 DJ qu'on connaît bien ici à Quincé, puisqu'il y a Christian Coiffure qui est autre que notre maraîcher, qui sera là pour jouer avec Célélé et Blanca Bruski, que vous connaissez bien à Rennes. Voilà, donc ils feront tous les trois un back-to-back, to-back, enchaîné pendant toute l'après-midi jusqu'au live de Voiron qui arrivera de Pougrescan pour nous faire son live dont il a le secret.
Tout le reste du printemps et de l'été, la ferme de Quincé va se transformer en un lieu un peu pluriel, mais à la fois terrain de jeu pour les familles, les enfants, lieu festif avec des concerts. L'idée, c'est vraiment de mélanger les publics. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de lieux qui proposent à la fois notamment une programmation électro et qui reste ouvert aux enfants.
C'est vrai que toute l'offre de la programmation, on essaye de la faire de plus en plus riche pour correspondre à un maximum de public. Aussi que ça nous ressemble à nous, tous les membres du collectif. Notre chance, c'est aussi d'être situé au cœur d'un parc urbain qui a été livré l'année dernière aux Rennaises et aux Rennais. Et donc du coup, on peut voir un joyeux mélange de personnes qui viennent vraiment profiter du concert et des familles et des personnes âgées du quartier qui peuvent rester aussi jusqu'à tard dans la soirée. La configuration de la ferme aussi permet à tout le monde de s'y retrouver. C'est-à-dire que si on n'aime pas trop la musique, si on se met dans la cour principale, on n'entend pas forcément la musique et vice-versa. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et on est un espace sécurisé pour les familles, donc c'est-à-dire qu'un enfant peut gambader et jouer dans le jardin et il n'y a aucun risque que l'enfant puisse s'échapper. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que les familles le disent souvent, que c'est un lieu qui est assez tranquillisant pour elles, parce qu'en fait, du coup, les adultes peuvent profiter et également les enfants peuvent s'épanouir et c'est plutôt chouette.
En général, sur les soirées, il y a quelle fréquentation, vous sauriez dire à peu près ?
Je dirais qu'on est sur une moyenne de 150 personnes étalées vraiment sur la saison, parce que Quand on arrive au mois de septembre-octobre, le temps est un peu plus mauvais, donc voilà. Mais on peut accueillir jusqu'à 350 personnes sur le lieu.
Pour que ce soit clair pour les auditeurs, le lieu, il prend vie donc toutes les fins de semaine, le jeudi, vendredi et le samedi.
Ça, c'est d'avril à octobre, avec une fermeture estivale du 3 au 22 août.
On peut parler de la nouveauté, à savoir un marché bimensuel qui va être proposé ici, avec donc les légumes de la ferme de Quincé.
Oui, c'est ça, parce que jusque-là, on vendait du coup les légumes de la ferme tous les jeudis soirs, et ce sera encore le cas cette saison, tous les jeudis soirs de 18h à 20h, vous pourrez retrouver nos légumes ici. Et cette année, on va tester un nouveau format qui sera donc un jeudi sur deux, donc le premier jeudi de chaque mois, puis le troisième, où on invitera d'autres producteurs de lait, de confiture, d'autres produits qui viendront ici aussi profiter de ce marché à Quincé, en fait. Et on essaiera de coupler ce marché avec diverses animations, des concerts, notamment des concerts de folk qu'on aimerait bien mettre en place. Donc ça sera deux jeudis par mois.
Les légumes, on les retrouvera aussi dans l'assiette, du côté de la quincette. Autre nouveauté, il faudra réserver pour le midi, mais on peut toujours venir le soir sans réservation.
Oui, on a dû arbitrer cette année parce qu'en fait, on a une personne en cuisine qui est rémunérée pendant toute la saison et cette personne est aidée par des bénévoles. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut toujours jongler avec les aléas de la météo, les aléas de la programmation qui amènent ou pas beaucoup de public et les aléas aussi des légumes qui viennent du champ. Pour simplifier le travail de l'ensemble de l'équipe, on a décidé de mettre en place cette réservation obligatoire pour les groupes. Donc c'est vrai que la quincette du midi, en tout cas, est vraiment plus adaptée pour des repas déjeuner d'entreprise, on va dire. Et puis le soir, la quincette est en accès libre total, il n'y a pas de réservation et il n'y a pas de limite de groupe. Voilà.
Et oui, petit changement sur la cuisine cette année, on aura trois personnes différentes qui vont se relayer à la cuisine en fait de la quincette sur la saison. Elles vont se partager donc deux mois chacune et on commence la saison avec Marie, qui est une bénévole et habitante du quartier de Beauregard, qui est une ancienne de la cuisine de Fézy, pour ceux qui connaissent, et qui viendra donc cuisiner les légumes de Quincé pour les deux premiers mois.
Quel type de cuisine est-ce que le public va trouver dans l'assiette? Comment on peut la décrire?
Donc Marie, elle travaille beaucoup avec des producteurs locaux, de la cuisine simple de saison. Elle travaille beaucoup autour du légume et elle essaye de magnifier tous ses plats avec des petites sauces qui viennent twister et relever tout ça. Et puis elle adore détourner aussi plein de fleurs comestibles qu'on connaît pas forcément dans ses assiettes. Donc voilà, du simple, du bon, du local et du floral.
Peut-être terminer en essayant de décrire un peu l'ambiance pour ceux qui sont jamais venus, mais à quoi ressemblent ces journées-là de fin de semaine lors de la belle saison à la ferme de Quincé?
Ben, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai qu'ici, on reste à Rennes, mais on est quand même bien à la campagne. C'est quelque chose qu'on nous dit assez fréquemment quand on passe le portail de la ferme de Quincé, où on se sent assez isolé. On est vraiment entouré des champs, dans une vieille ferme. Donc il y a ce côté assez paisible, en fait, hors du temps, hors de la ville. Voilà, et puis sinon, vous avez quand même un aspect assez festif et on aime bien rigoler ici. Donc l'accueil des bénévoles sur site et de l'équipe du collectif 35 volts est là aussi pour vous faire sourire et amener de la bonne humeur.
On est tous militantes et militants hein, dans le collectif et l'idée c'était de pouvoir porter aussi des valeurs qui sont hyper importantes sur... le monde de demain, en fait, sur l'alimentation, sur le développement durable, sur l'économie des ressources, et aussi sur comment on anime une communauté habitante aussi. Et je crois que le lien de tout ça, c'est vraiment ce côté festif. D'ailleurs, ça transparaît beaucoup parce qu'on se surnomme nous-mêmes les Quinsos. Et voilà, en fait, c'est vraiment notre état d'esprit, je crois.
Donc là, on est arrivé dans le champ
de pommes de terre.
Oui, là, on est en plein chantier de plantation de pommes de terre. Le champ fait un peu plus d'un hectare. On a 1,5 hectare exploitable en maraîchage sur les 4 hectares. Ici, l'exploitation maraîchère, elle est en agriculture biologique. Donc on n'est pas en permaculture parce qu'on avait à cœur d'avoir une accessibilité tarifaire des légumes qu'on vendait. Et donc si on était en permaculture, on aurait vendu nos légumes trop cher pour le portefeuille des habitants du quartier et du bassin rennais.
Il y a quoi qui pousse ici, hormis des pommes de terre?
Alors, vous avez une grande variété de légumes de saison. Donc, par exemple, si on va vers la serre pépinière, on va pouvoir voir tous les plants de tomates. Donc, on a plusieurs variétés de tomates anciennes pour l'été. On a de la blette, de la salade, on a du mesclun, on a des piments, des poireaux, de l'ail, des aubergines, des poivrons, des choux, du brocoli. Voilà, à peu près ce...
Ok. Ah mais c'est super grand, oui, j'imaginais pas de l'extérieur.
Alors à l'équipe du collectif 35 volts, vous ne m'aviez pas missionné pour diffuser ce titre-là, mais je l'ai trouvé tellement génial que je me suis arrêtée sur Fendre du bois par Griff, un duo pink-punk venu d'Orléans, à retrouver sur la scène de la ferme de Quincé vendredi soir. Le détail du week-end, c'est à retrouver donc, on l'a déjà dit, en ligne sur le site quincé.bzh. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale. Un mot au passage sur ce répondeur téléphonique qui est ouvert. Cette année, votre Radio Curieuse fête ses 40 ans et puis pour marquer le coup, on recueille vos souvenirs de la radio sous forme de messages vocaux. Pour participer, rien de plus simple, vous ajoutez le 07 60 24 95 77 dans vos contacts WhatsApp et vous pouvez vous enregistrer en gardant votre pouce sur le micro. Vous vous présentez en quelques mots, vous nous racontez votre souvenir marquant, qu'il s'agisse d'un groupe découvert sur nos ondes, d'une participation à une émission, d'un moment de radio inoubliable ou d'une rencontre déterminante. Et puis les messages vocaux, c'est un peu magique. Vous pouvez même nous faire écouter des ambiances autour de vous. Musique dans votre salon, concert dans un bar, ou encore le son de votre cafetière, soyez créatifs. Ces messages vocaux ils seront ensuite diffusés lors d'un événement qui est pour le moment tenu secret, mais donc pour fêter l'anniversaire de Canal B. Et si vous n'êtes pas sur WhatsApp, don't panic. Vous pouvez vous enregistrer avec vos dictaphones et nous faire parvenir ça à l'adresse lucie@canalb.fr. Avant de se quitter, la traditionnelle recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils d'événements à vivre près de chez vous, parfois des idées lecture, podcast ou documentaire. Aujourd'hui, deux conseils. Le premier, c'est une rencontre à vivre à l'Hôtel Pasteur à Rennes vendredi 5 avril à 17h. Sandrine Kerion a publié une BD documentaire sur les théories du complot. J'ai vu les soucoupes, c'est sorti en 2021. Erkan Aksünger s'apprête, lui, à lancer son podcast sur le handicap. Ça s'appelle Handipad et le premier épisode sera diffusé en ce mois d'avril. Leur point commun, au-delà d'être breton, c'est d'être parti d'une expérience personnelle pour sensibiliser les lecteurs. Raconter son histoire peut-il permettre une prise de conscience collective? C'est la question qui sera posée avec le public lors d'une rencontre qui est organisée par La Lucarne, un collectif de journalistes investis dans l'éducation populaire aux médias, et c'est gratuit. Deuxième rendez-vous à noter dans son agenda, c'est une table ronde organisée par les Amis du Monde Diplomatique de Rennes, des lecteurs qui tiennent à fêter les 70 ans du Monde Diplo, avec un échange sur le thème de la culture. Rendez-vous samedi 6 avril à 17h au Jeu de Paume à Rennes. Et autour de la table, on retrouvera Evelyne Pieyé, rédactrice en chef adjointe du Monde Diplomatique, Pascal Boisise, membre des groupes Brunoir et Mandelson, qui passe parfois sur Canal B, et enfin Élie Guéraud, sociologue et auteur du Déclin de la petite bourgeoisie culturelle. C'est paru fin 2023. Pour plus d'infos sur ce rendez-vous, il y a toujours le site ami.monde-diplomatique.fr. La Rennes, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Rennes. Le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.